Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Zach Addy, un entrepreneur de sa vie. Je le caractérise ainsi parce que Zach a plus d'une corde à son arc. À la fois créateur, danseur, speaker, Zach a juste décidé que dans la vie, il ferait ce qu'il aimait. On échange avec lui sur cette nécessité parfois qu'a la société de devoir étiqueter les gens et du fait qu'on ait le droit de ne pas rentrer dans une seule case. On parle de déconstruction sociale, de comment se protéger du racisme et de réussir à se construire une identité propre. Zach nous partage aussi ses astuces pour éliminer la haine et la colère et du choix qu'on peut faire chaque jour d'être quelqu'un de positif. J'aimerais aujourd'hui remercier Gwenaëlle qui a laissé l'avis suivant sur l'application Apple Podcast. Merci Louise pour ce podcast, c'est un vrai plaisir d'écouter chaque épisode en découvrant une nouvelle personnalité, un nouveau parcours, une nouvelle histoire. C'est très inspirant et cela me motive à croire en moi, à entreprendre et à suivre mes rêves. Merci Louise, je vais peut-être enfin arrêter d'hésiter et me lancer dans ce qui me trotte dans la tête depuis longtemps, afin de prendre le pouvoir de ma vie. Savoir que le podcast peut vous aider à croire en vous et en vos rêves, c'est la plus belle chose que je peux entendre, alors merci à toi Gwenaëlle, et merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser un 5 étoiles dans la rubrique Avis de votre application de podcast. Et je vous emmène tout de suite dans cette discussion très enrichissante que j'ai eu la chance d'avoir avec Zach. Ça faisait pareil, on a parlé genre un quart d'heure avant de trucs super intéressants et en fait du coup un moment j'ai lancé le micro parce que en fait c'est trop dommage parce que tu sais on va pas s'arrêter de parler à un moment en mode sûr. Bon attends désolé ce que tu dis est très intéressant mais il faut qu'on commence le podcast, c'est trop dommage
t'as
tu vois
trop raison.
Donc voilà et donc tu disais ouais t'as, donc en fait t'as de la chance c'est quand même très majoritairement des messages positifs.
Ouais j'ai eu une seule fois un message négatif c'était récemment je me suis retrouvé dans un couvent. C'est un peu improbable comme histoire.
Improbable, ouais. Dit comme ça, tu vois.
Complètement.
J'aurais pas deviné, tu vois. Tu m'aurais fait une devinette.
J'ai participé à une expo dans l'Aude. Et il s'avère que cette ville t'héberge dans son couvent. Donc, je me suis retrouvé dans un couvent. J'ai été hyper respectueux, parce que c'est quand même assez compliqué de faire des stories, de discuter avec des gens et tout, parce que bon, t'es quand même entouré de religion, et la religion, c'est quand même un sujet
sacré,
un peu touchy.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, à un moment donné... après, c'est ma enfin, tu vois, c'est ma personnalité. Je rigole de tout, je rigole avec tout le monde. Et là, je me retrouve dans une chambre, dans un lit un peu en hauteur, avec des évangiles à mes pieds, une table de chevet, une Bible, une Marie pleine de chapelets, un Jésus, du gui. Et je me dis genre, ok, les gens qui me connaissent, les gens qui savent, savent que je peux pas rester silencieux à ce sujet, c'est quand même juste dingue. Et donc je fais une mini story où je me cadre, tu vois, dans un fond blanc où il y a rien. Je me dis Zach, tu respectes, enfin parce que tu peux pas déconner, vraiment t'es à la limite déjà de faire une story dans un couvent, c'est
ouais,
chaud.
T'as touché la ligne.
Mais derrière ma tête, tu vois, il y avait une croix. Et donc du coup je me fais cette story et je dis salut, bon bah en direct du couvent. Ça me fait rire de dire le mot couvent. Et là je pousse un peu ma tête et on voit apparaître, tu vois, un petit bout de croix derrière ma touffe. Et là donc du coup les gens qui vraiment me connaissent, adorent, etc. Et j'ai reçu une fois, tu vois, ce message d'une nana un peu... Ah, c'est horrible ce que je vais dire, mais ça fait partie du jeu. Tu dois accepter les critiques, etc. T'as donné ton avis, c'est très bien, mais tu sens qu'il y a une espèce de petite frustration derrière le côté genre « Ouais, moi, l'apicratie... » Genre, j'ai appris ça, on parle de apicratie. « Les gens qui sont tout le temps contents, c'est n'importe quoi. Je pense que vous êtes jeune et complètement inconscient de ce que vous faites. » J'étais là. Okay.
En fait, elle a critiqué ta joie de vivre.
Ouais, en me disant genre, c'est bien d'être heureux, mais pas n'importe où. Là, vous respectez personne en montrant une croix derrière votre tête. J'avoue, je suis jeune, je suis un peu réac, j'avais qu'une envie. J'ai envie de la traiter de grosse bip, tu vois, ouais. En me disant genre, je vais la défoncer, c'est chaud, je vais se faire un screenshot, je vais partager sur mes réseaux, elle va se faire éclater. Et je me suis dit, c'est cool, ça va te faire du bien pendant 5 minutes, mais genre dans ta vie... Tous les jours, est-ce que ça va vraiment être intéressant? À part dire des gros mots pour dire des gros mots, du coup, ce que je me suis fait, c'est que je me suis envoyé un mail à moi-même en disant, tu vois, tous les gros mots que j'ai envie de lui dire, je me le suis envoyé et psychologiquement, d'avoir fait ça, je me suis dit, ah, je me sens bien.
Putain, mais quelle bonne technique!
Ouais, tu sais,
c'est
mais
génial,
vraiment, genre,
j'y ai jamais pensé.
Tous les gros mots, mais de la planète, des trucs débiles, genre espèce de gros saucisses de merde, enfin, des trucs débiles,
ouais.
Ouais, ta vie, elle est. Enfin. Tu
t'es défoulé quoi.
Ouais, je me le suis envoyé par mail et psychologiquement d'avoir cliqué sur envoyer, je me suis dit, oh, ok, ça m'a pas rendu mieux.
Ouais.
Mais je me suis dit, ça sert à rien d'attaquer cette personne qui, hélas, n'a pas atteint un stade, tu vois, de bien-être, de je me sens bien dans ma vie, ou en tout cas, j'ai décidé de rendre ma vie cool, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mmh. Non, mais c'est marrant parce que je pense que c'est un peu le même principe qu'on nous conseille parfois d'écrire ses pensées et tout pour aller mieux, un peu le journaling. Mais je pense que c'est un stade au-dessus d'envoyer le mail parce que t'as un peu cette histoire d'envoyer, c'est
ouais,
con,
ouais.
Mais où t'as l'impression que t'as sauté un petit cap parce que moi-même qui adore écrire, j'ai l'impression que ça m'a jamais aidé d'écrire genre mes malheurs ou quoi. En
ouais.
fait, je trouve que limite ça me fait penser plus qu'autre chose.
Mais toi, moi je suis vraiment d'accord avec toi, je le fais jamais. Mais là, en fait, j'ai trouvé ça tellement agressif par rapport à tout ce que je reçois et surtout vraiment au message que j'essaie de faire passer de tous les jours de ma vie en disant oui, parfois la vie est compliquée, bien évidemment. Enfin, je vous dis pas que être heureux c'est inné, non, c'est un truc qui se travaille tous les jours de ta vie, tu dois te le rappeler, voilà, activer en toi toute cette confiance, toute cette estime, ok. Mais là, recevoir un truc gratuit d'une personne en plus qui ne me suit pas, qui ne m'a jamais laissé de message, et entendre genre « Ouais, c'est la jeunesse qui vous rend comme ça, il y en a trop marre de tous ces influenceurs, de je sais pas quoi, vous respectez personne, puis votre bonheur il est faux », j'étais là « Non, en fait,
En fait, je trouve ça tellement mal placé, et en fait, d'un côté, tu sais, dans ces moments-là, on nous dit « Laisse passer, tu sais qu'elle est jalouse, blablabla », mais en fait, ça n'aide pas beaucoup
de
dire
non.
ça, parce que moi aussi, dans ces moments-là, j'allais dire « Ouais, d'accord, mais... » Pourquoi elle veut me le dire? Et en fait, bon, c'est vrai que moi j'ai tendance à toujours vouloir avoir le dernier mot.
Bah
ou
ouais.
au moins donner mon avis. Et donc, tu vois, j'aurais vraiment. Enfin, dans ce moment-là, j'aurais aimé lui dire, mais quel est le problème en fait avec le fait d'être heureux, tu
Exactement.
Vois?
Exactement. J'ai Parce vraiment
c'est,
répondu
en vrai,
ça.
En plus, là-dessus, c'est vraiment ça la question. Limite, si jamais t'avais vraiment, je sais pas,
oui, si j'avais
vidéo, genre déplacé ou quoi, mais là.
Retourner juste... une croix, mais j'aurais accepté.
Et encore, tu vois, en fait, je vois pas le rapport justement avec la critique de l'apicratie, comme elle a dit.
Ouais.
Limite que tu dises, t'as montré une croix, bon, c'était hyper religieux, soit t'as montré une croix. Mais critiquer les gens qui sont heureux, je trouve que ça fait vraiment rageux.
Ouais.
Enfin, en fait, on a besoin de ça. Et c'est vrai que bah, du coup, on peut faire un lien avec ce sujet-là. Est-ce que toi, t'as toujours été quelqu'un d'heureux et qui a la joie de vivre? Ou est-ce que c'est venu d'un travail et d'un combat? Parce que je trouve qu'il y a deux cas de figure, généralement.
Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Non, alors moi, ça vient bien évidemment d'un combat, d'un travail sur moi-même, d'un moment donné où je me suis dit, en fait... je suis plutôt de bonne composition, je suis quand même très optimiste tout le temps, assez extraverti, heureux, etc. J'ai mes petits moments de down comme tout le monde, mais il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit, ok, en fait, là, arrête de vouloir sauver des gens, parce que ça, c'était un peu à un moment donné mon petit côté Joséphine Ange Gardien, sauve-toi, et voilà, mets-toi tes vrais problèmes en face. Et ce combat, des fois j'ai des petits fantômes, des petits démons qui reviennent, et du coup je les combats, mais effectivement d'être tous les jours, en tout cas c'est même pas me forcer parce que c'est complètement devenu naturel,
ouais.
Tous les jours être positif, optimiste, me dire, enfin ne pas dire « Ah merde, j'ai fait ci, ah nanana », et être con, tu vois, y a, hélas, on est entouré de beaucoup de gens qui sont un petit peu dans cette espèce de petite mimique de « Ah, ça c'est pas bien, machin », et c'est vrai que si tu te laisses emporter par ça, très vite, tu peux finir par dire « Ouais, de toute façon, c'est une journée de merde, ça, je le savais, c'était prévu. » En fait, c'est pas vrai.
Ouais.
C'est pas vrai, tout ça. Ça, c'est... ça, il faut arrêter.
Je suis totalement d'accord.
J'entends des potes et j'attends. Et tu sais, je les regarde et quand ils ont fini, je leur dis « Ça y est ? Ça t'a fait du bien ?» Bah, non, je dis « Tu sais qu'un truc grave, par exemple, c'est genre la terre, elle s'arrête. Ça, c'est grave. Genre ta mère, elle meurt. Ça, c'est grave. » Là, le fait que t'aies raté le métro ce matin, que du coup t'arrives en retard au boulot, c'est pas très grave.
Ouais.
Et du coup, toute ta vie n'est pas ratée. Ah ouais, c'est vrai que dit comme ça, dans ta bouche, tout de suite, ça a l'air... Ouais.
Mais t'as raison, c'est vraiment des mécanismes.
Ouais.
Et franchement, t'as aussi raison vraiment sur le fait que c'est un choix. Moi ça, mais j'ai mis tellement de temps à le comprendre, enfin tellement de temps, ça va, je suis encore jeune, et franchement, je suis contente d'avoir eu ce déclic, mais moi, quand j'étais enfant... Je me plaignais tout le temps.
Ouais.
On m'appelait la râleuse. Mais vraiment.
C'est vrai.
Et en fait, je pense que c'est un environnement, tu vois. Je pense que l'éducation joue beaucoup, les personnes avec qui tu restes jouent beaucoup. Et moi, je sais pas, je pense que j'ai toujours eu ce besoin peut-être d'extérioriser une colère, tu vois. Et j'étais toujours celle qui n'était jamais contente, qui râlait. Et tu sais, j'ai une sœur jumelle, je sais pas si t'as vu du coup.
Si,
sur
si, c'est qu'il
vidéo,
faut détester
mais...
des produits.
Ah ouais, elle de la nourriture.
La nourriture, c'est vrai.
Et en fait, elle a jamais été comme ça pour le coup. Enfin, en fait, moi j'ai toujours été assez sensible au sens où je vais être très heureuse ou très triste ou très en colère, etc. Elle, c'est très linéaire.
Ah ouais.
Elle s'en fout. Elle est chill, c'est le mot chill. Moi, c'est un truc pour lequel j'y arriverai jamais, je pense.
Ouais, j'arrive pas à être chill. Je suis un faux chill, moi.
Mais tu vois, j'ai réussi à retourner Justement, même sur ma collé l'étiquette de la râleuse, je m'en suis détachée totalement, mm-hmm. et maintenant, mais je me plains jamais, et je suis tellement plus heureuse. Ou alors rarement. Et si jamais je me plains, c'est de la petite plainte, genre, oh, ces chaussures me font vraiment mal aux pieds. Mais tu vois, ça m'empêche mais pas du tout d'être heureuse,
ça,
tu vois.
Ça t'empêche pas d'être heureuse,
exactement. Et donc, comme quoi, je pense qu'il faut sortir de cette idée aussi, qui est très française, de mm. tu es comme ça. Tu es né comme ça. Tu es quelqu'un de ça, tu es quelqu'un de ci.
Ah mais grave.
Et putain, ça, on nous le colle, quoi.
Cas, que ce soit les moules, profs, c'est français,
que ce soit...
Hein.
Mais t'as vu c'est que ce soit les fou. Profs, les parents et tout. Et moi-même, parfois, j'étais fière de dire « Non, mais moi, je suis comme ça, je râle beaucoup, tu vois. »
Oui, mais c'est horrible.
Mais whatever, c'est t'acceptes faux.
T'acceptes presque...
ta condition...
Les autres, enfin, ce que les autres te disent, parce que c'est plus fort. Enfin, tu vois, genre... Bon, sans aller trop loin, mais... tu vois, toutes ces histoires de genre, de nom, d'orientation sexuelle, de machin, mmh. ça fait réagir autant de personnes. C'est parce que, enfin, moi, je vois plutôt, tu vois, des gens avec des œillères, des trucs... en fait, je sais pas, ouvrez-vous, quoi. Mmh. Arrêtez de projeter vos espèces d'angoisses, vos mots personnels, vos mots et vos mots sur les
ouais,
autres.
Ouais.
Et laissez les autres vivre leur vie. Et nous aussi, tu vois. Arrêtons d'accepter les mots et les mots des autres. Et en fait, il faut vivre sa vie, quoi.
Ouais, clairement. Mais ça, c'est vrai, j'en parlais, je crois, avec Oussama. On se demandait d'où... Comment... Moi, j'ai jamais compris comment on pouvait détester quelqu'un qui avait une orientation sexuelle différente de la tienne.
Ouais, c'est ça.
Et ouais, c'est vraiment, comme tu dis, je pense, ils projettent les peurs sur les autres, mais... Enfin,
ouais.
Vis ta vie, laisse les autres vivre la leur. C'est quelque chose... Bon, à mon avis, pareil, c'est ça doit être une éducation, ça
mais
doit être, tu vois, un conditionnement.
Clairement un truc d'éducation, vraiment un truc d'éducation.
Mais tu vois, moi, je trouve que cette excuse, elle a des limites, en fait.
C'est sûr.
Vu que moi, j'ai réussi à prendre du recul par rapport à mon éducation et que, personnellement, j'ai l'impression de m'être plutôt construit par rapport à ce que je voulais croire. J'ai fait le tri dans ce qu'on m'a éduqué, enfin, dans ce qu'on m'a appris, dans ce que je retenais, dans ce que je voulais pas retenir. Je trouve que, même si ça peut justifier certains comportements, c'est très facile aussi parce qu'on peut tous... déconstruire ce qu'on a appris si on s'en pose la question, quoi.
Est-ce qu'on peut genre parler du coup de auto-éducation?
Moi je pense, moi c'est un truc dans lequel je crois vachement, que ce soit par les livres, par les podcasts maintenant, mais par enfin moi ça va être beaucoup
les voyages,
les voyages. Moi je sais pas, ça je suis vachement partagée en fait. Pour moi, les voyages, ça donne de l'expérience.
Mmh.
Ça t'ouvre sur les cultures des autres.
Ouais.
Et donc, du coup, tu peux prendre des autres cultures. Mais en tout cas, pour moi, l'éducation, ça passe plus par un apprentissage vraiment, que ce soit auditif ou visuel. Mais je sais pas. Tu vois, c'est marrant. Je sais pas si moi, j'aurais mis les voyages dans le top 3 de ce qui m'a aidé à faire mon auto-éducation.
Ouais.
Alors que toi, si.
Si
je comprends
bien.
Du coup,
je me disais... Parce que, alors, c'est triste parce que j'ai oublié le nom de cette tribu. Par exemple, il y a une tribu africaine.
Ouais.
Les hommes, par exemple, doivent se maquiller, se préparer, porter des colliers de fleurs et danser devant des femmes qui, elles, ne sont pas du tout apprêtées, je mets des gros guillemets, à l'européenne. Comme les magazines adorent nous montrer.
Ouais.
Et en fait, rien que ça, par exemple, je pense que si quelqu'un faisait ce voyage, ou en tout cas s'intéressait à ce voyage juste visuel...
Ouais.
Tu vois, peut-être son image changerait. Tu vas se dire que il y a des pays où, je fais une petite parenthèse, j'arrive aujourd'hui là en RER, j'entends des petits jeunes qui parlent et ils parlent d'un garçon et un des deux dit ah non mais attends lui c'est un PD et l'autre répond mais non c'est un bonhomme. Et donc dans ce c'est un bonhomme, j'ai compris qu'en fait on parle de cases et de moules. Être un bonhomme, ça veut dire quoi?
De
ça veut dire
être
viril,
coup,
de pas être maniéré peut-être, de pas, j'en sais rien, ne pas aimer la mode, enfin de ne pas être dans un cliché que les gens se sont dans lesquels les gens se sont inscrits. Je pense que c'est ça, et peut-être que par cette auto-éducation dont on parlait, ou en tout cas d'ouverture d'esprit et au monde, de voir que en Afrique, être un bonhomme, ça veut pas dire j'en sais rien moi, jouer au foot, enfin tous les clichés, j'ai pas envie d'en faire plus que ça, mais qu'en tout cas dans cette tribu africaine, être un bonhomme, c'est porter un très joli collier, chez les oiseaux par exemple, c'est avoir le plus beau plumage, tu vois, rien que ça, si on en parlait un petit peu plus.
Non mais en fait t'as carrément raison, hein. C'est pour ça que j'adore moi discuter avec les gens sur les podcasts, t'as carrément raison, en fait c'est confronter notre réalité et ce qu'on nous a appris à ce qui existe ailleurs.
Mais, oui, ouais.
Mais c'est vrai, t'as complètement raison.
Il y a
en fait.
Beaucoup trop de gens
qui
tournent autour de leur nombril,
ouais.
Tu vois, autour d'eux. Et dès que, en fait, il y a des gens, pour moi, c'est des points. Et en fait, quand tu poses un point sur une feuille, il n'y a rien, quoi, c'est un point. Moi, je pense qu'il faut faire il faut que tous les points s'assemblent pour faire genre une espèce de grand rond. Mais si t'es un tout petit point tout seul dans une grande page blanche, bah, t'es rien qu'un point, quoi.
Ouais.
Il faut que tu grossisses.
Tu vois, je pense qu'on gagnerait à faire des voyages où on rencontre des cultures vraiment différentes. Parce que je pense que pourquoi moi ça m'a pas transcendé, c'est que je suis quand même restée dans un milieu très occidental. Par les voyages que j'ai fait avec ma famille ou avec l'école. Et du coup, même si t'apprends des différences, genre les Allemands, ils mangent tout sur du pain, eux.
Ouais.
Tu vois, ça va pas très loin. Tu vois, c'est les mêmes magazines, c'est à peu près les mêmes standards de beauté. Mais, et encore, moi, tu vois, pour en avoir parlé sur Instagram dans des posts, parce que j'avais fait un post sur ma couleur de peau, c'est marrant parce que ce post a été très polémique. Parce que, en fait, c'est dingue parce que tu vois, le racisme est dans les deux sens. Je me suis pris, après, c'est peut-être moi qui étais maladroite dans le choix de mes mots, mais je disais que moi, ça a été assez difficile dans ma vie de vivre le fait que je sois très blanche. En fait, ça paraît absurde pour les personnes qui sont d'origine africaine,
métissée ou peau noire.
Parce que eux, c'est certain qu'ils ont beaucoup plus souffert du racisme que moi. Moi, c'est pas du tout ça. Mais ça a été au niveau de commentaires, ça a été au niveau de stigmates. Oh, putain, tu bronzes jamais. Oh, mais t'es super blanche. Oh, mais pourquoi tu es blanche et ta sœur, elle est bronzée. Et en fait, tu vois, c'est juste, encore une fois, le comportement que les autres vont avoir qui vont, toi, te faire compliquer sur quelque chose qui n'a pas nature à te faire complexer. Et donc, je me suis rendu compte par un commentaire d'une fille qui était d'origine indienne qui me disait bah, chez nous, la peau blanche, mais c'est hyper valorisé. Ne complexe pas, genre tu serais une star chez nous, tu vois, je sais pas quoi.
Ouais,
et c'est là où je me suis dit, bah, c'est vrai que du coup, vraiment, c'est absurde quoi.
La couleur de la peau, ça, c'est un sujet de fou.
Ouais.
De fou, c'est ce que je. La première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai fait une petite allusion à ce sujet.
Ça m'a tellement parlé. Enfin, en fait, ça m'a tellement parlé, pas au sens où. En fait, tellement aberrant.
Ouais.
Mais tu l'as dit d'un ton tellement détaché que j'ai vachement respecté.
Parce que, en fait,
j'ai été
vraiment. Tu vois, je peux le redire pour les personnes qui nous écoutent, mais moi, je suis né dans les Yvelines, donc dans un département français très populaire. Je suis né à Trappes, en fait. Donc, tu vois, maghrébin, africain, des Indiens, des Pakistanais. Enfin, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de mixité. Et mes parents ont décidé de déménager en Eure-et-Loire, à la campagne. J'arrive donc dans cette école, et le premier jour de l'école, ma sœur et moi, en plus, ma sœur est un peu plus mat que moi, on nous dit « Ah, dis donc, vous avez une tache. » Donc, on se regarde en disant genre « Mais où ça ?» Enfin, genre, on se frotte, etc. Et on nous dit « Non, mais la tache, genre, elle est partout. Vous avez pas pris votre douche. » En se moquant. Alors, quand t'es tout petit, j'avais 8 ans, tu prends ça, voilà, au premier degré, ça t'agresse, c'est violent, etc. Et en fait, avec le temps, avec le recul, je me suis dit « Ok, en fait, j'ai à peine 30 ans, donc je suis vraiment jeune. C'était il y a 20 ans, cette histoire. » Et ben, il y a 20 ans, en fait, en Eure-et-Loire, on est encore au Moyen-Âge. Et ça n'a pas changé. C'est assez triste, mais moi, j'ai découvert ma couleur de peau à 8 ans. Vraiment, je me suis dit, ah, en fait, je suis pas normal, tu vois.
Ouais.
Parce qu'on m'a fait comprendre très vite qu'être normal, c'est être, en tout cas, de peau claire, avec des yeux clairs dans l'idéal, et des cheveux lisses. Alors ça, pendant très longtemps, j'ai rasé mes cheveux.
Mais c'est dingue, parce qu'en fait, moi, j'ai le côté féminin de filles qui me disent aussi, c'est vraiment un sujet très, très complexant pour les filles qui ont les cheveux afro, parce qu'elles sont tellement pas représentées, elles étaient en tout cas tellement pas représentées dans les magazines, que pareil, moi, j'ai entendu tellement d'histoires de filles qui mettaient des perruques, qui se les lissaient tous les jours, et c'est dingue d'aller contre sa nature à ce point-là, parce qu'on te fait croire que t'es pas censé ressembler à ce à quoi tu ressembles.
Exactement. Et c'est assez récent, je trouve, et je suis très content, il y a des artistes engagés, comme la sœur de Beyoncé, Solange, qui avait une chanson qui s'appelle Don't Touch My Hair, que je trouve vraiment merveilleuse. Et donc, voilà, c'est assez chouette, mais c'est quand même encore un sujet récent, enfin, tu vois, avoir des espèces de mini-réflexions. Alors, je le prends pas comme du racisme, parce que ça, c'est un mot qui est un peu violent, qui est vraiment agressif, je trouve. Je pense que c'est plus une espèce d'ignorance et de non-éducation, plutôt. Tu vois, ah, c'est rigolo, qu'est-ce que c'est comme matière, mais tu les laves cool tous les combien. Enfin, moi, ça ne viendrait jamais à l'esprit de demander ça à des copines à peau claire, de dire, mais tu te laves les cheveux souvent ? Mais c'est quoi comme matière ? Mais c'est génial, mais toi, ça tient tout seul. Enfin, mais après, ça se les cheveux, quand t'es asiatique. Tu vois, t'as la peau plus jaune, alors on te demande si tu vois de la même manière que nous, parce que t'as les yeux bridés. Enfin, tu vois, c'est...
Comme tu dis, c'est de l'ignorance, mais...
C'est vraiment de l'ignorance.
Qui a quand même une forme de racisme.
Il y a des racistes, ça c'est certain. Et je pense, mais hélas, pour moi, être raciste, c'est quand même être assez intelligent.
Parce que t'as eu le temps de réfléchir à pourquoi t'es raciste.
Exactement.
Je sais pas, parce que moi, je vois... En fait, je pense qu'il y a des degrés de racisme. Mais tu vois, les personnes âgées... moi j'adore mes grands-parents, mais ils ont des remarques parfois racistes et ils se rendent pas compte.
Mais c'est pour parce ça que c'est leur... moi je les place dans l'ignorance, tu vois.
Enfin... Ouais, c'est... non, mais t'es mature, hein. Franchement, c'est une prise de recul de ta part. Parce que oui, je pense que c'est pas foncièrement méchant. Le racisme, c'est vrai que pour moi, c'est. Je sais pas en fait. Pour moi, c'est... en tout cas, quand on va critiquer ou estimer que quelqu'un est inférieur à toi du fait de ta couleur de peau,
oui,
c'est du racisme terrible. En fait.
Oui, c'est clair.
Voilà, clairement, après, c'est vrai qu'il y en a, c'est vraiment méchant et d'autres, c'est limite, j'allais dire, naïf. Tu vois, peut-être mes grands-parents,
oui,
c'est naïf.
Oui, il y a plein de choses naïves, mais tu
mais,
vois.
Mais il y a quand même, comme tu dis, à mon avis, une éducation à faire sur le sujet. Et ce que je trouve bien, en tout cas, avec les réseaux sociaux, c'est que ça a permis d'ouvrir
le spectre.
Et comme, y a, comme tu dis, le monde est fait de toutes les couleurs, ça a permis de montrer que la race blanche n'était pas en aucun cas supérieure aux autres et,
oui,
et que la diversité était une richesse, tu vois.
Ouais. Tu vois, pareil, toujours une petite anecdote très drôle. Là, dernièrement, pour cette expo dans l'Aude du sud de la France, slash couvent, j'ai une petite dame, tu vois, mais vraiment une grand-mère mignonne, enfin, tu vois, je ne l'ai pas pris pour du racisme, mais qui est venue me voir, elle m'a regardé de la tête aux pieds, mais genre en mode découverte, tu vois, et elle me dit, oh là là, mais vous êtes... Non, elle me dit rien, je lui réponds bonjour, et elle me dit, oh, mais vous parlez français? Et je lui dis, et je lui réponds, oui. Et elle me dit, mais vous venez pas des Amériques? Et je dis, comment ça des Amériques? Genre, les Amériques de 1492, genre les Indes. Elle me dit, elle était un peu déconcertée. Je me suis dit, enfin, tu vois, tu vas pas l'agresser, ça sert à rien. Elle lui fait une scène, tu vas pas la défoncer. Enfin, tu sens bien que, qu'en fait, elle est restée, enfin, elle est là depuis 492, cette dame. Mmh. Et je lui dis, non, en fait, je suis pas du tout américain et. Et oui, je parle français. Enfin, en fait, je suis français et j'habite à Paris. Et là, du coup, elle me regarde, tu vois, avec cette espèce d'air de « Ah, la capitale !» Là, d'accord, c'est OK. C'est genre, à la capitale, ils font des trucs comme ça.
Ah ouais, OK,
genre,
okay,
des
okay,
gens
okay.
un peu grands, métissés, avec des cheveux que je connais pas. Mais c'est, tu vois, je pense qu'il y a des gens qui l'auraient pris vraiment comme du racisme. Mais en fait, c'était pas du racisme, quoi. Je pense qu'il faut pas tout mélanger. Mmh. Cette dame, je pense qu'elle avait jamais vu un métis d'1m85 avec une afro qui fait des expos sur les pompons. Enfin, tu vois, c'était... Pour elle, c'était genre... je sais pas, donne un iPhone à Jules César, tu vois.
Ouais.
Le bug, quoi.
Ouais.
Voilà. Mais on est en 2018 et il se passe encore des trucs comme ça.
Et du coup, t'es resté combien de temps dans cette campagne d'Eure-et-Loir? Est-ce que t'es resté toute ton enfance là-bas ou...
Ouais, alors on y est arrivé, de 8 ans jusqu'à mes 18 ans.
Ok.
Et du coup, quand je suis arrivé en primaire, donc déjà, c'est vraiment une école de campagne profonde, c'est-à-dire que l'école partage sa cour avec la mairie et l'église. Donc, il y a eu une époque où tu devais passer par l'église pour aller dans l'école, jusqu'à ce que quelqu'un réagisse il y a 20 ans en se disant « Oh les gars, c'est pas très laïque !» On va peut-être mettre un
ça
mur...
Ça date quand même du début du baptême, la loi de séparation entre les deux.
Du coup, ils ont mis un petit mur, mais on passait... Donc, on avait quand même la cour commune avec la mairie. Et donc, du coup, effectivement, j'étais la seule personne avec ma petite sœur à peau foncée. Et alors, ça n'a rien à voir, mais j'étais aussi le seul élève de CE2. C'est vraiment les classes à plusieurs niveaux et j'étais le seul élève en CE2. Et après, donc j'étais
CM1, des gens.
Le seul en CM2.
T'étais le seul de ta génération ?
Et ouais.
Ah ouais, le bled !
Ouais, le bled, ouais. J'avais une camarade quand même. Donc c'était ma meilleure copine, tu vois.
Ouais.
Enfin, heureusement qu'elle était là.
Heureusement qu'elle était pas raciste, parce que
ouais, elle avait pas trop le choix. Hein. Voilà. Et ensuite, on arrivait au collège. Et alors là, pareil, plus profond, plus loin. Et alors, je pense que c'est le cas un peu pour beaucoup de gens. Le collège, c'est un peu la période horrible.
Ouais.
C'est pas la période sympa.
Ouais, c'est vrai.
T'es un peu ado, les gens sont méchants. Soit t'es populaire et du coup t'es dans le groupe des méchants et c'est cool et t'es méchant avec tout le monde et tu crois que t'es génial, mais en fait, Bon, c'est le collège, c'est assez horrible. Moi, j'étais plutôt, dans une espèce de groupe ni populaire, ni geek. Mais j'étais toujours le seul. Alors avant on disait black, on avait le droit. Après on disait renois, mais non, il faut dire noir pour être politiquement correct. Mais j'étais le seul renois de la bande et jusqu'en troisième. Et ensuite, je suis allé à Dreux, qui du coup ressemble un peu plus aux Yvelines. Et voilà, j'ai retrouvé cette mixité, tous ces gens, etc. Mais ouais, c'est vrai que c'était assez compliqué.
Ouais, je me demande vraiment comment tu l'as vécu. Si est-ce que du coup, t'as une espèce de rupture de tes de ta vie de 0 à 8 ans et de 8 ans à 18. Est-ce que du coup, t'as genre essayé de changer de comportement? Est-ce que t'as vraiment senti un shift? Est-ce que tu as réussi à te construire
je pense que
opposition ou par rapport à
et
ça
ben ouais, exactement ce que tu me disais tout à l'heure, ce que tu me demandais, tu sais, genre, est-ce que tu as toujours été aussi bien-être, aussi joie de vivre, aussi tout ça? Alors, je pense que oui, c'est un peu en moi quand même, jusqu'à mes 8 ans. Ensuite, j'ai eu cette énorme claque. Et après, tu sais, c'est un peu horrible, mais c'est comme cette espèce de cliché qu'on dit que quand une personne est en surpoids, elle se cache derrière son humour. Mm. Et ben, c'est à la fois un cliché, et en fait, c'est pas faux, parce que du coup... J'ai fait un peu ce truc-là, tu vois, cette espèce de truc de genre, j'ai eu voilà, un sens de l'humour incroyable, j'étais le copain de tout le monde, j'étais, j'ai été cette espèce de métisse populaire sympa, le pote de tous les copains, pour un peu, peut-être, tu vois, j'en sais rien, alors, j'essaye pas de faire cette psychologie, tu vois, ouais. C'est pas maintenant qu'il faut le faire parce que c'est trop tard, mais oui, peut-être qu'inconsciemment, il y avait un truc d'acceptation, d'intégration, de je ne suis pas qu'une couleur, je suis aussi une personnalité drôle, quelqu'un de sympa, etc. Mais clairement, enfin, j'ai toujours été, en tout cas pendant toutes ces années de collège, le pote métisse de tout le monde, tu vois. Donc ouais, aux anniversaires, mais tu sais, Zach, là, le petit métisse. Enfin, voilà.
Ouais, on t'appelait par ça, quoi.
Ouais,
c'est ça, c'est
ça. Ça a toujours été ça. Et après, voilà, heureusement, je suis arrivé au lycée et là, il y a eu plein de gens différents, enfin voilà, plein de couleurs et tout. Donc. Mais je pense que c'était déjà ancré, tu vois, cette espèce d'énorme carapace de trucs de protection, avec du tac au tac tout de suite. Genre, tu rentreras pas à l'intérieur de moi parce que c'est blindé, parce que voilà, il s'est passé trop d'années où j'ai effectivement un peu souffert. À l'école, etc.
Et avec le recul, est-ce que t'es content au final d'être passé par là? Parce que moi, c'est souvent quelque chose, enfin une question qu'on entend dans les podcasts que les gens posent. Moi, je la pose pas parce que en fait, c'est souvent la même réponse. C'est qu'est-ce que t'aurais aimé changer ou qu'est-ce que tu regrettes? Et en fait, les gens qui sont même passés par des parcours très difficiles, très compliqués, des périodes très voilà vraiment difficiles à vivre, ils vont rarement dire. J'aurais pas vécu ça.
Ah non.
Parce que t'es là aujourd'hui. Et t'es content généralement de là où t'es et du chemin parcouru.
Complètement.
Et on changerait généralement pas les choses, quoi.
Ah non, jamais de la vie. En fait, c'est un peu bizarre à dire parce que du coup j'ai l'impression qu'on a parlé de souffrance et tout ça et que du coup je vais enchaîner en disant
j'ai adoré
ce qui m'est arrivé. Mais en même temps, tu vois, c'est un peu comme cette chanson de Camini là qui se retrouve tout seul dans la pampa, c'est la seule famille black. Mais en fait, enfin. Je suis pas mécontent. J'ai aucun regret de ce qui s'est passé. J'ai pas eu une vie horrible non plus. Enfin, c'est pas.
Ouais.
Ça va. Il y a pire que moi.
Heureusement, ça a pas atteint le stade de la violence.
Non. Ça va. Ça va. Je réfléchis. Non. Il y a pas eu ça. À part cette réflexion vraiment une fois, tu sais, à 8 ans, qui était pas cool.
Oui.
Mais après,
violence symbolique très.
Tu vois, tu deviens tellement fort avec ta personnalité que les gens n'oseraient jamais en fait franchir ce pas de parler ou d'oser. Dire quelque chose sur ta couleur ou sur tes origines ou je sais pas quoi. Du coup, tu vois, tu deviens jamais la personne de qui on se moque, au final.
Bah, arrête, il y a un tabou, limite, maintenant. Là-dessus. Enfin, il y a sûrement toujours eu, mais maintenant, c'est vrai qu'on a tellement peur d'être catégorisé comme le raciste.
C'est un truc de fou,
Que parfois, je trouve ça limite, comme tu dis, on sait pas si on doit dire un noir, un black, un africain.
T'as peur de
mais
tout.
Moi, tu vois, genre, en plus, je m'en fous. Enfin, on m'appellerait la blanche, je pense que je m'en foutrais. Donc,
mais
le noir, ça sonne, je trouve. Encore, tu vois, on nous a tellement, à mon avis, ces 10 dernières années, le mot était tellement pas à la mode, et ça fait tellement genre, oh, tu l'as appelé par sa couleur de peau. Enfin, bref, de toute façon, on devrait même pas avoir le précisé, mais.
Non, mais c'est un truc de fou, mais t'as vraiment raison. Enfin, tu vois, moi j'ai des potes, je fais de la danse, je fais du dancehall, donc c'est quand même toute cette communauté afro-caribéenne. Enfin, voilà, on est cette espèce de. C'est horrible de dire entre nous, parce que du coup, tu deviens presque. Moi, je suis à la fois pour et en même temps contre tout cette espèce de truc de communautarisme et tout ça.
Ouais.
Mais en même temps, tu vois...
Il y a des liens.
Ouais, il y a un truc, tu vois. Enfin, typiquement, on adore se tacler sur des... bon, bah après la danse, on va manger du poulet. Genre, clin d'œil. Parce que oui, on adore le poulet. Enfin, tu vois, c'est... Et du coup, effectivement, tu sais plus du tout ce que tu peux dire, ce que tu peux faire. Comment... Enfin, c'est un truc de fou. Et du coup, limite, tu t'empêches de vivre ou de dire des choses que t'as envie de dire, de peur d'eux, et en fait, t'es plus jamais toi-même.
Ouais.
Je pense qu'il faut complètement sortir de ça.
Ouais,
et en fait, on a rien à foutre. Enfin, c'est-à-dire que si toi, t'as envie de t'appeler ta pote Marenois, et qu'en fait, c'est entre vous, et que c'est OK entre vous, enfin, il faut en avoir rien à foutre de la pensée des autres. Et si ça fait chier les autres, bah, c'est que ça fait chier les autres et pas toi.
Ouais. Non, c'est une façon de penser. Grave. L'appel est lancé.
Ouais, voilà. Donc, si vous écoutez ça et que vous avez envie d'appeler vos potes Marenois, ma chinoise, ma paqui, et que c'est dit avec de l'amour, ma pack-pack d'amour, mon rebeu, enfin, dites-le et arrêtez de vous prendre la tête et fuck les gens qui, en fait, se
donnent
sont automis des trucs.
Demandé,
en fait, on vous a rien demandé, quoi.
Ouais, je suis d'accord. Et du coup, bah, tu l'as dit, maintenant, tu fais du dancehall.
Ouais.
Moi, maintenant, je sais pas, parce que là, en arrivant, tu me disais aussi que tu allais faire... alors, le DIY, c'est pour quoi? C'est pour le Mexique ou pas du tout?
Non, c'est pour perso. Alors, en fait, c'est assez drôle. Je suis... Pareil, on m'a mis dans une case... Genre, une fois, on m'a dit, mais genre, toi, Zach, c'est quoi ton vrai métier? Du coup, j'étais là. Du coup, je peux poser une question? On me dit, ouais, c'est quoi un faux métier?
Non, mais général, oui, les gens pensent que faire un seul truc, c'est un métier.
Bah, un faux métier, c'est en général, tu les aides. Tu leur dis, genre, bon, arrête de réfléchir. En fait, ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas de vrai métier puisqu'il n'y en a pas de faux.
Ouais.
Et voilà, du coup, je crois que c'est, on dit slasher, on dit tout
ouais,
ça.
Ouais.
Donc, complètement, enfin, moi, j'ai décidé d'aimer ce que je fais et de faire ce que j'aime. Donc, du coup, j'ai fait des études d'anglais, c'était chouette, je suis allé aux États-Unis, je suis rentré. Voilà, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie d'être prof, ça m'intéresse pas. Finalement, je suis allé faire une école de commerce, j'ai pris l'option com digital, j'ai été community manager dans une mercerie. Enfin voilà, j'ai trouvé ça tellement cool. Ma grand-mère faisait de la couture, j'en ai toujours fait.
Ouais.
J'ai toujours été entouré de fils, de tissus, de dessins, de choses comme ça. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, en fait, c'est cool. Tu fais 12 millions de trucs pour tout le monde, mais tu ne fais absolument rien pour toi. À part aller danser à l'arrache quand tu y arrives, en te surmotivant parce qu'en fait, tu es au bout de ta vie. Je crois qu'il faut que tu arrêtes. Donc du coup, je me suis arrêté. Et je me suis lancé complètement en freelance en me disant, en fait, je vais faire ce que j'aime, quoi. Moi, j'aime quoi? J'aime faire du crochet, j'aime faire du tricot, j'aime coudre, j'aime rencontrer des gens, j'aime faire des projets intergénérationnels, j'aime monter des expos, j'aime danser, j'aime les gens, en fait. Donc, pendant quelques années, je me suis dit, il faut que tu trouves un nom de métier pour tout ça. Et en fait, depuis, franchement, 2-3 ans, je m'en bats les... Voilà.
Ah, mais
je ne cherche absolument pas à trouver un nom. Parce qu'en fait, c'est pas moi que ça dérange de pas avoir de nom de métier. Ça dérange les gens. Parce que les gens ont besoin d'avoir un nom, un poste, une fiche de travail. Et en fait, moi, non. Ma vie, c'est pas ça du tout. Ma vie, c'est rendre les gens heureux, monter des ateliers, enfin faire tout ce que j'ai dit. Et du coup, effectivement, je fais un peu de do-it-yourself. Je fais de la danse, je voyage, je monte des ateliers. Enfin, voilà, c'est ça ma vie.
Bah, j'ai un mot pour ça, moi, j'appelle ça entrepreneur de sa vie.
Exactement.
C'est exactement les gens que je reçois sur le podcast. Mais je suis d'accord avec toi, et moi, pour faire plusieurs projets aussi, on me demande pas encore mon métier, vu que je suis encore étudiante, mais du coup, quand c'est présente-toi ou dis-moi ce que tu fais.
Ah, c'est horrible.
Ah, c'est très chaud, parce que du coup, t'es obligé de donner une réponse de 5 minutes, parce que toi-même, tu perds dans tes propos,
oui,
et puis
ça.
Tu penses à un projet que tu fais, et à celui que t'as fait. Et, du coup, tu sais, tu donnes. J'ai l'impression de dire, soit d'être la meuf qui en fait trop, soit la meuf complètement perdue, alors que toi, tu sais où t'en
oui,
es,
c'est
tu
ça,
vois.
Tu sais où tu vas,
ouais,
ce que tu veux, etc. Mais
non,
et en même temps, t'as
maintenant.
Pas envie d'avoir des mots, parce que tu vois, il y a tous ces mots, il y a slasher, blogueur, influenceur, micro-influenceur, coach de bien-être, enfin,
ouais,
du coup, t'es...
Ouais, ouais.
Et du coup, moi, j'ai pas envie de me casé dans un de ces mots, je m'en fous.
Ouais.
Si machin, il a envie de dire que Bazak, il est influenceur beauté, bah vas-y, si ça te fait plaisir et que tu penses que je fais que ça, bah ok, moi je fais pas que ça, quoi. Tu vois, c'est comme pour cette nana qui ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Adam et Ève, couvent.
La bonne blague.
Qui vient et qui se permet, tu vois, de me pondre ça, son mal-être. Bah tant pis pour toi, enfin, tu vois, ça, je pense qu'elle est pas plus heureuse d'avoir pondu son truc.
Clairement.
Mais moi, voilà, ma vie, elle continue grave d'avancer, de rencontrer des gens de ouf. Enfin, voilà, et là, cette rencontre avec toi qui est genre juste à la fois incroyable, improbable et en même temps normale.
Ouais, en même temps normale, ouais, ouais. Non, je suis tellement d'accord. Et J'ai réalisé ça il n'y a pas très longtemps, mais ça, je crois que j'ai déjà parlé sur le podcast, cette histoire de chance qui se provoque. C'est qu'en soi, moi, je trouve que j'ai trop de chance, là, de rencontrer des gens trop intéressants avec le podcast et tout. Surtout que je suis contente parce que c'est quelque chose que les gens aiment, mais je me suis jamais pris de bâche pour l'instant de « non, je ferai pas ton podcast », tu vois. Ouais, et en fait, du coup, je suis là, mais j'ai trop de chance de rencontrer des gens intéressants, genre, toutes les semaines. Mais en fait, d'un côté, bah, je l'ai créé, tu vois.
C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, je crois pas que ça soit, genre, la chance au sens bonne fortune. Je pense que vraiment... Quand t'es, enfin, ou solaire ou lunaire, peu importe quelle totalité, mais alors ça me fait rire, parenthèse.
Ça, je savais du tout ce que c'était.
Moi non plus, beaucoup. On dit toujours genre, Zach, t'es vachement solaire. Et je suis là. Mais ça veut dire quoi, du coup, lunaire? T'envoies des rayons de lune? Enfin, c'est.
Sophie est fan d'astrologie en plus.
Oui, on lui demande, on devrait lui demander.
Et elle balance pendant le podcast, je pense que t'es ascendant Lion.
Ok.
Et j'étais ascendant Lion.
Ah oui.
C'est quand même assez dingue. Hein. Non, mais c'est que moi, je suis pas incroyable. Du tout calée là-dessus.
Pas trop moi non plus. Enfin, tu vois, les histoires de chance, de gens uniques, de destinée,
de lignes.
De ouais. Lignes, machin. Alors, j'y crois de manière très large. C'est-à-dire que. Enfin, j'y crois dans le
truc,
sens
quoi.
Où je me dis que la chance, tu peux la provoquer. Je disais que c'était pas genre une histoire de bonne fortune, de genre t'es chanceux plus qu'un autre, pas du tout. Je pense que vraiment si tu décides dans ta vie de semer des petites gouttes de joie, des petites gouttes de bonheur, etc., forcément à un moment donné, ça va te revenir en face. Donc tous ces gens qui sèment des petites gouttes de caca, forcément à un moment donné la merde leur revient en face. Et c'est ces gens qui n'arrivent pas à avancer, qui se disent constamment « Non mais moi ma vie machin, non mais moi j'arriverai pas, non mais toi tout te sourit. » Bah en fait moi tout me sourit parce que je souris à tout.
Ouais, j'ai planté des
graines. En fait,
ouais.
parce que en fait si j'ai raté mon métro, eh ben je me dis bah putain ça va être une journée foirée. Je me dis bah en fait j'ai raté un métro, c'est pas grave, je prendrai le prochain.
Ouais.
Et j'arriverai en retard et en fait je dirai, bon j'ai pas d'employeur mais... Mais enfin, j'en sais rien, je rate mon TGV pour aller dans un endroit, bah c'est pas très grave. Enfin, il y a vraiment pire dans la vie.
Non, je suis d'accord, c'est une question de relativité.
Et surtout,
en fait,
si tu rates ton TGV, c'est que t'es pas très organisé. Enfin bref, tu vois, on peut aussi revenir grave en arrière en avant.
Ouais,
enfin,
ouais.
Donc, grave en arrière en avant.
C'est un concept.
C'est un concept.
C'est un concept.
Les gars, allez en arrière en avant quand vous avez un problème.
Mais est-ce que du coup, parce que là, tu nous expliques que vraiment, t'as eu cette prise de conscience de... Il faut que je pense à moi d'abord et on va remettre un peu de l'ordre dans ma vie.
Ouais.
Est-ce que ça a été super instinctif et vraiment genre du jour au lendemain, t'as dit bye? Ou est-ce que ça a été le source d'angoisse, de questions, de réflexions? Parce que c'est un sujet sur le podcast, parce que beaucoup de gens qui nous écoutent n'osent pas, pensent que ce n'est pas pour eux, ont vraiment voilà, des questions légitimes de la sécurité de l'emploi, de est-ce que ça va vraiment me plaire? Et du coup, bah, c'est vrai que moi, comme il y a pas mal de gens en soi qui sont dans ton cas et qui ont swifté du salarié à l'entrepreneuriat, parce que pour moi c'est ça, ils parlent souvent de leur expérience et de ce qui les a aidés à franchir le pas.
Complètement. Alors du coup, pour répondre à ta question, il faut revenir un tout petit peu en arrière, mais enfin très en arrière. Moi je suis né dans une famille qui est à la fois du côté de ma mère de seconde génération, née en France, et mon père lui est marocain, né au Maroc. Donc du coup à la maison il y avait cette espèce de biculture, tu vois, donc je fais partie de ces générations de personnes qui, à la fois, sont nées en France, donc français. À la maison, t'es pas vraiment français aux yeux de ton père, par exemple, qui, lui, est resté quand même connecté à son pays. Ce qui est très bien. Donc, du coup, voilà, je suis très heureux d'avoir cette double culture. Mais pendant pas mal d'années, j'avoue avoir été un peu perdu là-dedans. Entre être, en plus, physiquement plus près d'un Guadeloupéen, d'un Martiniquais. Enfin, toute ma vie, on me demande de quelle île je suis. Et en fait, je ne suis pas d'une île, je suis marocain, en fait. Donc, tu vois, il y a ce besoin des gens de te mettre un peu dans un pays pour savoir d'où t'es. Et ben, en fait, moi, mon pays, c'est la France. Je suis né en France. Mais oui, mon père est marocain. Ses grands-parents étaient du Sahara de Mauritanie. Enfin... Et du coup, j'ai grandi toute ma vie dans cette espèce de double culture et sans trop savoir qui je suis, où je vais, est-ce que je suis marocain, est-ce que je suis français. Au Maroc, je ne suis pas marocain pour un marocain parce qu'en fait, je suis né en France. Pour un français, hélas, je suis pas vraiment tout à fait français parce que je suis pas blanc. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là, plus l'arrivée à la campagne, la découverte de la peau. Du coup, je crois que t'es obligé de te blinder ou de sombrer. C'est un vrai choix. Bon, moi, j'ai fait le choix quand même de me blinder, etc. Et de décider, assez jeune, en fait, de me dire, ben, j'ai qu'une vie et je vais la kiffer, mais genre grave. Donc, bien évidemment, à 8 ans, t'as pas le discours que t'as quand t'as 30 ans, mais déjà très jeune, je savais que j'allais faire des trucs complètement différents des choix de mes parents et de ce qu'eux avaient envie et croyaient que j'allais faire en tout cas. Donc du coup, j'ai grandi dans ma famille et en même temps un petit peu à côté de cette famille, jusqu'à un truc très à la mode, le divorce de mes parents, et le fait que je me suis dit, bon, là mon gars, t'es tout seul, il va falloir que tu fasses tes choix, et que tu t'incarnes dans ces choix-là. Et du coup, j'ai fait le choix, dès la sortie du lycée, de vivre ma vie comme je le voulais et de pas choisir entre telle culture, telle religion, telle couleur, telle idée, de dire, bah, en fait, qu'est-ce que tu veux. Et donc, du coup, ça va faire quand même 12 ans que voilà, je construis mon espèce de petite vie heureuse en rencontrant les bonnes personnes, en semant toujours ce qu'on disait, les petites graines de bonheur et de joie, et en faisant des erreurs, en me plantant, et en même temps, c'est un peu cliché, mais il y a qu'en se plantant qu'on repousse. Mmh. Donc chaque fois que j'ai un problème, eh ben, j'adore avoir un problème. Chaque fois que j'ai une galère, eh ben, je me dis pas « Ah putain, c'est une galère !» et genre, je baisse pas les bras, je me dis « Bravo, c'est cool une galère !» Je disais que je savais pas trop si j'étais dans tous ces délires d'univers ou je sais pas quoi, mais en tout cas, chaque fois que j'ai une galère, je me dis juste que c'est une épreuve que la vie m'envoie. Et moi, j'adore la vie. Donc en fait, tous les jours, je lui dis merci à la vie. Donc je pense que pour certains, c'est comme si je disais merci au destin ou merci à l'univers, enfin j'en sais rien. En tout cas, moi, dans ma vie, c'est merci la vie. Et j'ai décidé, effectivement, assez tôt, et il y a maintenant beaucoup de temps, enfin, je sais pas, ça fait plus de 10 ans, d'être joyeux. Enfin, vraiment, de me dire, personne sera joyeux pour toi, quoi.
Mmh. Donc, je suis trop d'accord.
Donc vas-y, mon gars, ouais. Go, quoi.
Tu vois, moi, un truc que je me demande beaucoup, parce qu'en fait, j'ai l'impression que... tu vois, j'ai du mal à déterminer la part de choix et la part quand même de personnalité. Tu vois, un truc que j'ai vachement mal à comprendre, non pas que j'essaye de comprendre, mais les personnes dépressives. Mmh. Tu vois, je pense qu'il y a quand même une part qu'ils doivent pas contrôler, tu vois.
Ouais, c'est sûr et certain.
Et moi, pour le coup, ça fait pas mal, beaucoup moins de temps que toi, mais moi, ça doit faire au moins 2-3 ans que j'ai fait aussi le choix d'être heureuse et joyeuse tous les jours, même quand il m'arrive des petites merdes. Mais c'est vrai que quand il m'arrive des grosses merdes, bah là, je fais plus trop la maline, tu vois. En fait, je vais être là comme si je mettais un peu en pause mon bonheur et que je sais qu'un jour, je réarriverai à être heureuse, tu vois. Mm-hmm. Mais il y a des périodes, voilà, si il y a un vraiment truc horrible qui m'arrive, ben, dans 2 mois, je vais être là, ben non, là, c'est de la merde, tu vois.
Ouais.
Et moi, du coup, je me rassure en me projetant dans l'avenir, t'inquiète pas, dans 1 an, ça ira beaucoup mieux.
Ouais, j'avais lu ça, que t'étais un peu trop dans le turfu et que t'arrivais pas trop à te connecter au maintenant.
Ah ouais, je l'ai lu, je l'ai mis dans un
poste. Je pense que tu l'as dû
ouais,
dire.
Ça c'est peut-être mon gros problème. Mais alors. D'un côté, j'arrive à être heureuse comme ça parce que je suis quelqu'un, et ça, je sais que j'en ai déjà parlé aussi, qui, je pense que l'attente est toujours mieux que le moment même. Donc l'exemple que je donne souvent, c'est Noël. Moi, je suis une grande fan de Noël.
Ouais.
Et l'attente, pour moi, la préparation de Noël, alors moi, je vais commencer 1er novembre, hein, c'est sûr. et du coup, ça me laisse 2 mois pour kiffer à mort, imaginer Noël, ouais. les repas, les fêtes, les joies. Mais en fait, Noël, ça dure 15 jours.
Ouais.
Et donc le moment présent, il va pas me procurer tant de bonheur que ça. Et c'est pour ça que je pense aussi que je me projette autant dans le futur et je suis toujours excitée de la soirée qui va arriver, le projet qui va se concrétiser, parce que c'est une hâte très forte. Et j'ai l'impression que la hâte me procure plus de moments que le moment présent.
Ah ouais.
Et je crois que, franchement, à quelques exceptions près, j'ai jamais réussi à être dans le moment présent.
Ah ouais, c'est drôle que tu me dises ça parce que, tu vois, par exemple, j'adore Noël aussi.
Ouais.
J'adore ce moment. Mais en fait, dans Noël, moi, ce que j'aime... c'est me retrouver en famille avec un bon repas et décorer un peu la maison. Et en fait, moi, je décide dans ma vie de faire Noël quand je veux, par exemple. Parce que j'adore tellement ce moment-là que j'ai pas envie de l'attendre, parfois.
Ouais.
Et si j'ai envie de le vivre là, si par exemple, je te dis, bon, vas-y, Louise, en fait, j'ai trop envie qu'on se claque un Noël la semaine pro, eh ben, viens, on recrée cette ambiance de Noël. Alors, on aura peut-être pas de sapin et tout ça, mais...
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? En fait, dans mon esprit, il y a toujours cette espèce de truc allumé qui dit qu'est-ce que t'aimes le plus, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux
dans
la chose en tout
ouais,
cas.
Ouais.
Et du coup, comme c'est toujours activé et allumé, eh ben, j'arrive à le mettre dans ce moment présent,
d'accord.
Dans mon moment présent.
Bah, je pense que ça marche avec certains trucs. Par exemple, je pense au sport, parce que moi, du coup, j'adore le sport. Et j'adore la danse, ça, faudra qu'on en parle.
Grave,
tu viens
de danser.
Mais en fait, moi, j'ai eu... totalement, j'adore. À la base, mon truc, c'est la danse, vraiment. C'est le truc que j'ai commencé avec ma sœur jumelle quand on avait 3 ans. J'ai fait tous les styles de danse. Et je me suis particulièrement épanouie dans le hip-hop et le street dance. Mais en fait, à Paris, c'est super dur, en tout cas dans mon quartier, et surtout quand, j'en faisais, tu vois, quand j'avais 14-15 ans, de trouver des bons cours de hip-hop.
Ouais,
je me souviens, j'ai passé des heures à chercher, tu sais, des conservatoires de hip-hop ou juste des classes très bonnes. En fait, à chaque fois, c'était des classes tout niveau, et donc je me suis rapidement fait chier.
Ouais.
Et donc, en fait, j'ai arrêté pour ça, et du coup, j'ai fait de la gym après. Mais j'adore ça, et ça me manque. Et donc, le seul moment où je m'éclate, c'est sur le dance floor en soirée. Où malheureusement maintenant on danse plus vraiment. Donc
oui.
Comme j'aime le rythme, je m'en fous, je vais bouger.
Ouais.
Mais ce que je kiffe, c'est les chorés. Et en plus maintenant sur Insta, on voit, tu sais, toutes ces danseuses de
exactement.
Ouf et tout. Et ça me redonne trop envie d'en faire. Et pourtant je connais maintenant que je bouge un peu plus que le 15e quand j'avais 14 ans. Mais il y a des très bons cours dans le Marais ou dans le studio Lax. J'ai
studio
vu mais
Lax,
qui est à
émergé.
L'opposé de chez moi.
Ouais, c'est
fait.
Vrai que pour toi c'est un peu compliqué.
Moi,
mais même moi,
une
je
heure
suis
de travail,
à Place
vois.
De Clichy par exemple.
Ouais, ah ouais, putain, c'est loin.
Donc
mais ouvre un truc dans le 15e s'il te plaît.
Ouais.
Mais nous c'est la dèche, limite que ce soit 15e, 14e, 16e, 7e, il y a rien en fait.
Ouais.
Il y a rien.
C'est vrai.
Et donc comme
c'est
tu dis, maintenant on a tellement déjà
gauche,
du mal à tout faire. Nous, on est rive gauche, ouais, et la danse, du coup, c'est apparemment rive droite.
Ouais.
On sait pas pourquoi.
Mais c'est ça, je crois qu'il y a aussi ce côté... Enfin, tu vois, il y a des quartiers qui sont plus ou moins populaires, des quartiers
ouais.
familiaux, des
ouais.
trucs où le hip-hop, c'est trop street. Mmh. Donc, du coup, on peut pas trop le montrer. Enfin, il y a quand même tout ce truc. Mais t'as raison, il faudrait faire un espèce de complexe... avec des mecs habillés en baggy et des grosses chaînes en or, en
c'est
plein
ça.
Dans le 15e, et dire en fait les gars, on va pas vous agresser quoi.
Ouais.
On est là pour danser.
Ouais.
Et viens danser, viens kiffer.
Et leur montrer justement que c'est un partage,
exactement.
Un moment de joie,
la danse,
un moment d'épanouissement.
C'est vraiment ça.
Et t'as commencé quand la danse toi ?
Alors moi du coup j'ai commencé la danse tout petit. J'ai dû commencer vers genre 6 ans, quelque chose comme ça. Donc des petits cours de hip-hop en MJC et tout ça. Et après, donc à la campagne, bien évidemment, il y a eu un gros moment de pause, hein, parce que la campagne.
Si à Paris, tu vas trouver un cours dans l'Eure-et-Loire.
Mais du coup, avec ma petite sœur, on regardait le Hit Machine le samedi, et
ouais.
genre, on refaisait toutes les chorés. Parce que bien sûr, je crois que si les gens qui écoutent ont moins de 30 ans ne savent pas ce que c'est qu'un magnétoscope et une cassette, tout ça. Donc on enregistrait avec ma petite sœur sur les cassettes le Hit Machine et on repassait les chorés et donc on les connaissait par cœur, on faisait toutes les chorés. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai repris les cours de danse et quand je suis arrivé à Paris, il y a 10 ans, j'habitais à Javel d'ailleurs, rue de la Convention.
Ah ouais.
J'ai cherché plein de cours de danse, donc je suis allé un peu au studio harmonique, j'ai fait plein de cours et ensuite j'ai rencontré cette prof de danse. De dancehall qui du coup m'a bien formé etc et je me suis lancé pareil parce qu'il n'y a pas, tu sais, tu disais conservatoire de hip-hop mais en fait il n'y a pas, enfin
même d'académie de formation,
il y a plein de cours, il y a plein de formations mais ça c'est pas reconnu et en même temps je crois qu'il faut pas faire ça parce que pour moi le hip-hop, la grande famille hip-hop avec toutes les danses qu'elle a en elle, je crois qu'il faut pas mettre on fait comme si c'est comme ça parce que cette danse là en tout cas c'est la danse de la liberté.
Ouais, c'est vrai.
En fait, si tu t'éclates en dansant, peu importe ce que tu fais, je crois que c'est bon.
Je suis d'accord. Mmh. Je suis d'accord que c'est comme essayer d'apprendre l'entrepreneuriat, tu vois.
Ouais, non.
Si tu peux pas,
alors,
c'est tellement
il y a des
propre.
Bases quand même pour pas
voilà,
faire de bêtises.
Non, mais il y a des conseils. Toujours, on peut s'améliorer, mais ça va plus être, comme dans l'entrepreneuriat, de l'inspiration d'autres personnes, de toi-même essayer, rater, recommencer, réussir.
De l'instinct, de l'intuition, et
ouais, ouais,
te planter,
vraiment,
recommencer.
Très personnel et aussi très plus à l'expérience qu'à la théorie, quoi.
Complètement. Complètement.
Et du coup, tu as décidé à un moment de donner des cours. Ouais, tu t'es dit, ça me fait vraiment kiffer.
Et ben ouais.
Alors, je vais l'entrer dans ma vie, quoi.
Du coup, ouais, je dansais beaucoup.
C'est une bonne manière de réfléchir.
Exactement. Et je me suis dit, en fait, j'adore danser. Et du coup, dans toujours cet esprit de faire ce que j'aime... Et quand j'ai été me présenter à l'URSSAF et que je leur ai dit salut, en fait je veux devenir auto-entrepreneur et dans ma vie bah je vais faire un peu de cours de danse, mais des fois je vais apprendre aux gens à faire un peu de tricot et parfois je vais leur apprendre à être heureux. Le gars m'a regardé avec des yeux genre j'ai pas de métier qui s'appelle comme ça. Je lui ai dit
on n'a pas trouvé ton numéro.
Je sais pas trop. Je dis je sais pas, il y a pas un truc qui s'appelle coach de la joie. Il me dit, Bah, ça, c'est cool, mais je crois que c'est pas remboursé par la sécu, quoi, donc on peut pas mettre ça.
Mon Dieu.
Et
archaïque.
Coup, ouais, il m'a mis enseignement culturel. Donc en fait, je suis enseignant culturel.
Ah, tu vois, t'as trouvé un petit blaze.
C'est le nom de mon code
en société.
APE, ouais, je suis enseignant culturel. Mais ça veut dire quoi, enseignant culturel?
Ça veut rien dire.
Parce que tu vois, tu pourrais être en fait assis sur un chaise dans un musée et de temps en temps faire des confs, t'es enseignant culturel.
Carrément, carrément. Mais ça sonne, là, ça sonne politiquement correct, tu vois.
Ouais, je pense que pour l'État, ça leur fait du bien de se dire, bon, on a donné un nom, quoi.
Ouais.
Et du coup, j'ai décidé de faire ça. Donc, je donne des cours de danse, des cours, enfin, plein de choses. Et la danse, j'ai vraiment décidé de ce truc, de exactement comme tu disais. Moi, j'ai envie que quand les gens y rentrent dans mon cours, ils s'éclatent comme quand ils sont en boîte, ou comme quand, encore mieux, je le dis tout souvent, je veux que vous vous éclatiez comme quand vous êtes en serviette dans la salle de bain.
Ouais.
Genre ce moment où tu as réussi à défoncer toutes les barrières, où le regard des autres n'existe plus, où la pensée des autres n'est plus là, où tu es toi à 100%, où tu es ton meilleur toi-même, et que tu es avec ta serviette, et que limite elle tombe, et que tu te retrouves à poil devant ce miroir, et que tu es en face de toi-même, et que tu en as genre rien à foutre, et que la musique, elle traverse toutes les mini centimètres de ta peau et que limite t'as envie de chialer tellement t'es heureux de danser.
Grave, grave.
C'est ça que je fais dans mon cours et c'est ça que je mets. Donc, t'as raté la choré, on s'en fout. Moi, ma question, c'est pas genre c'était, je m'en fous. C'est ma première question, c'est tu t'es éclaté. Et les gens me répondent souvent oui, mais non, je m'en bats les couilles. Non, non, me dis pas, mais il y a pas de mais. Enfin, tu vois, c'est comme quand je te dis genre. Tiens, elle est belle ta robe, j'ai pas envie d'entendre. Ah non, c'est rien, c'est une vieille guenille. C'est pas ça la réponse. Moi, je veux juste que tu me dises merci, c'est tout. Dis oui, accepte le compliment. Donc, si je te demande si tu t'es éclaté, si tu t'es pas éclaté, c'est une autre histoire. Tu me le dis, bah non, je me suis pas éclaté. Là, on en parle. Mais si tu t'es amusé, ouais, me dis pas genre, ouais, mais la ligne 1, ils étaient. Je m'en fous. En fait, la ligne 1, elle a été la ligne 4 avant d'être la ligne 1. La fille qui est devant toi, qui a l'air d'être hyper confiante en elle. Confiante en elle ? Confiante en elle ?
Qu'elle a l'air d'avoir qu'elle a l'air d'être confiante, je dirais.
C'est ça ? Qu'elle a l'air d'avoir de la confiance en elle.
Voilà.
Voilà. Et ben, en fait, il y a 3 ans, quand elle est arrivée, elle se tenait avec le dos rond, elle avait des t-shirts triple XL, et ouais, maintenant, elle danse en crop top, parce qu'en fait, elle a compris que c'est, enfin, que le regard des autres, ça n'allait pas l'aider dans sa vie. Et je suis heureux de faire partie de ce processus dans la vie des gens. Et c'est ça que je fais dans mon cours de danse.
C'est génial, ça donne trop envie. Je mettrai le lien dans les notes du podcast où tu donnes des cours parce que je sens qu'on va être plus d'un à pouvoir l'essayer. Bon, bah écoute, malheureusement, je crois qu'on est déjà à la fin. Franchement, je serais restée au moins 2 heures. Mais bon, nos emplois du temps respectifs nous appellent. J'ai une dernière question pour toi.
Oui, dis-moi.
La question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ?
Prendre le pouvoir de sa vie. Prendre le pouvoir de sa vie, je pense que ça veut dire réussir à se détacher, un peu se laver, se nettoyer de tout ce que on essaye de nous mettre dans la tête, que ce soit familial, le cercle proche des amis. Il y a des choses très bonnes à prendre, il y a des choses... dans ces choses bonnes à prendre, il faut... 1, 2, 3, il y a des choses bonnes à prendre, et dans les choses mauvaises, il y a quand même toujours une part de positif. En tout cas, il y a moyen de switcher ça dans un truc positif, quitte à le redire à la personne qui t'a dit un truc négatif. Et de devenir acteur de sa vie, de se dire c'est moi l'acteur de ma vie, c'est pas les actions des autres. Les actions, c'est elles viennent de moi, c'est moi qui les fais. Et si j'ai envie d'arrêter de pas marcher, ben je marche pas. Si j'ai envie de faire 10 pas, j'en fais 10. Si j'ai envie de sprinter et qu'en fait, eh ben je dépasse tout le monde, eh ben tant pis. À un moment donné, les gens me rattraperont. Ou s'ils me rattrapent pas, c'est qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde.
Trop cool, bah merci beaucoup à toi Zach d'être venu sur InPower. Où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui veulent découvrir cet univers, cette apicratie que tu partages tous les jours?
Alors cette happy, good mood, love, slash joie et amour sur les gens, eh ben je sévis sous le nom de Zach Addy.
Ouais.
Zach, ça s'écrit avec un K. Parce qu'il y a des gens beaucoup mettent C et K, juste Zach, Addy, A-D-I-T.
Ouais.
Sur n'importe quel réseau, donc à la Facebook, Instagram, et pour les do-it-yourselfers, j'ai un petit blog sur lequel il y a plein de tutos, si tu as envie de te faire une robe, un pull, un bonnet.
Trop cool, ouais. Bah, tu me donneras le nom du blog, je
avec
le mettrai
plaisir.
Aussi dans les notes du podcast.
Ça marche.
À bientôt Zach.
Merci.
Un grand merci de s'être joint à nous pour cet échange avec Zach. S'il vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez nous le faire savoir, en parlant autour de vous ou sur les réseaux sociaux, et en vous abonnant pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'InPower.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.